Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'actualité francophone. Les aides au développement pour les pays pauvres en Suisse, au cœur d'un débat très vif, le budget a finalement été sauvé de justesse. En Belgique, les moteurs diesel dans le collimateur, Volkswagen n'est pas la seule marque concernée. Les voitures diesel de plus de 20 ans seront interdites d'accès à Bruxelles dans 2 ans. Également au sommaire, de l'eau et du feu, une partie de la France submergée par les inondations et le retour chez eux des sinistrés de Fort McMurray au Canada. Un mois après les incendies qui ont dévasté la région, retour très progressif. La Suisse investira 0,48% de son produit national brut pour l'aide au développement entre 2017 et 2020. Après des débats très vifs au Parlement, la Chambre du Peuple a finalement validé à une courte majorité le projet du gouvernement, Pierre Anchoffat. Ce sera donc 12,5 milliards d'euros qui seront injectés sur cette période de 4 ans.
11,11 milliards de francs suisses acquis de haute lutte par le ministre des Affaires étrangères, Didier Burkhalter, contre l'avis de l'UDC et de son propre parti, les libéraux radicaux, qui voulaient réduire ce crédit en raison de l'état des finances fédérales. Une pluie de critiques aussi sur la dispersion des moyens et sur le manque d'efficacité de cette aide. Les nationaux conservateurs de l'UDC ont même contesté le principe de la coopération suisse, à l'image du Genevois Yves Nidegger.
Si l'on considère les milliards engagés par la Suisse et par d'autres dans l'aide au développement et qu'on fait un bilan, on doit admettre que ce bilan est désastreux. On n'obtient pas de développement malgré les sommes extrêmement importantes qui sont concédées.
Pour ce parti, l'arrivée des migrants africains jusqu'en Suisse traduirait simplement l'échec de l'aide au développement.
Un lien a donc été établi entre la politique migratoire et l'aide octroyée à certains pays.
Oui, un lien que la droite aurait voulu rendre quasi automatique. Seuls les pays qui collaboreraient en matière d'asile et s'engageraient à reprendre leurs ressortissants déboutés pourraient encore bénéficier de l'aide suisse. Didier Burkhalter a réussi à contrer de justesse cette conditionnalité qu'il a qualifiée d'aveugle. Représentant de la gauche, Denis de la Russie est lui convaincu que l'aide apportée sur place réduit de facto le nombre de ceux qui viennent frapper à nos portes.
Les francs qui sont investis sur place sont de toute façon investis de manière plus intelligente qu'ici en cas d'urgence. Évidemment, nous devons aussi accueillir des réfugiés, mais c'est beaucoup plus efficace de travailler sur place. On ne peut pas, nous, la Suisse, pays qui reste quand même un pays avec certains moyens, s'enorgueillir par exemple d'avoir la Genève internationale et puis en même temps d'être très restrictif au niveau de l'aide au développement. Ça n'irait tout simplement pas.
Une question d'image donc que le gouvernement souhaite évidemment préserver, même s'il a une nouvelle fois reporté à des jours meilleurs l'objectif fixé par l'ONU de consacrer 0,7% de son PIB à l'aide au développement.
Après le scandale des moteurs truqués de Volkswagen, la Belgique a voulu en avoir le cœur net et a fait tester le taux de pollution des voitures, toutes marques confondues. Les résultats sont déplorables, Nathalie Devic, et concernent toute l'Europe.
Un constat accablant pour les constructeurs, toutes les voitures diesel testées en conditions réelles de circulation dépassent largement les normes autorisées d'oxyde d'azote jusqu'à 6 fois et des écarts de 80% pour le dioxyde de carbone entre les émissions annoncées et celles constatées. Toutes les marques surévaluent leurs performances écologiques, des performances pourtant homologuées par l'Europe. Le ministre wallon de la Mobilité et de l'Environnement, Carlo Di Antonio, dénonce le manque de rigueur des procédures d'homologation. Il accuse carrément l'Europe de berner les pays membres.
Toutes les bases sur lesquelles nous avons travaillé étaient fausses, de manière quand même très paradoxale. Donc le service environnement au niveau de l'Europe qui nous dit « vous allez être pénalisé au niveau de la Belgique si vous ne diminuez pas vos émissions d'oxyde d'azote ». Donc le bâton européen qui nous dit « attention, vous polluez, c'est dangereux pour la santé ». Et d'un autre côté, un autre service de l'Europe qui homologue des véhicules en ne respectant pas les critères et en faisant en sorte qu'on ne dispose pas des bonnes informations.
Et les résultats sont les mêmes partout où ces tests ont été effectués, en France, en Allemagne, en Angleterre. Priée de s'expliquer, la Fédération belge de l'automobile reconnaît que les procédures actuelles manquent de réalisme et devraient mieux coller à la conduite sur le terrain.
Le test européen, il date d'une période où on ne parlait pas encore de voitures hybrides, de voitures électriques, etc. Ça démontre qu'on a besoin de nouveaux tests. Eh bien, ces nouveaux tests arrivent dès 2017. Ce sera un grand pas en avant.
À Bruxelles, on a pris les devants. La qualité de l'air s'y dégrade tant ces dernières années que la ville a décidé d'interdire les voitures les plus polluantes, diesel, de plus de 20 ans, dès 2018. La capitale deviendra zone basse émission sous caméras intelligentes. Aujourd'hui en Belgique, on estime que 11% du parc automobile pose problème en termes de pollution.
En France, l'actualité marquée par des orages et des pluies diluviennes. Des villes moyennes submergées, 20 000 personnes évacuées en Seine-et-Marne. À Paris, les quais de la Seine inondés, une ligne ferroviaire coupée. Le Louvre et le musée d'Orsay fermés pour mettre à l'abri certaines œuvres qui se trouvent en sous-sol. Du jamais vu en cette saison et la grande peur de ce qu'on appelle la crue centennale, telle que les Parisiens l'ont connue en janvier 1910. Annette Ardisson.
Oui, une grande partie de la capitale transformée en lagune, on ne le verra pas ces jours-ci. Même si à Nemours, une ville traversée par le Loing, un affluent de la Seine, le niveau d'eau a dépassé son record de 1910. Depuis cette époque, des barrages de retenue ont été créés, 13 en amont de Paris, mais ils ne protègent pas les riverains de certains des affluents de la Seine, d'autant que les nappes phréatiques cette année étaient déjà saturées avant les intempéries de ces derniers jours.
Mais ça fait plusieurs années qu'on dit qu'une crue de type de celle de 1910 reviendra et que des exercices de simulation sont organisés.
Effectivement, crue centennale, ça ne veut pas dire qu'elle revient tous les 100 ans. Ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 100, ou plutôt un risque sur 100, d'avoir de telles précipitations.
A-t-on plus de risques avec le réchauffement climatique ?
On a plus de risques d'avoir des masses d'air chaudes, et plus un air est chaud, plus il est capable de contenir de la vapeur d'eau, donc de l'eau. Pour autant, cette année, les météorologues expliquent que les fortes précipitations de ces derniers jours sont liées à la position des anticyclones et des dépressions, donc aléatoires.
Au Canada, les personnes évacuées de la ville de Fort McMurray commencent à regagner leur domicile un mois après les incendies de forêt dévastateurs. Benoît Audet, des milliers de personnes sont retournées chez elles, mais ce n'est pas encore un retour à une vie normale.
Non, l'incendie a ravagé une partie de la ville. 10% des résidents ont perdu leur maison et quelques dizaines de milliers de personnes seulement ont reçu l'autorisation de rentrer chez elles au cours des derniers jours. Une grande partie d'entre eux ont retrouvé leur maison dans un bon état relatif. La fumée a quand même envahi des maisons qui n'ont pas été détruites. Des résidents ont aussi eu la mauvaise surprise de retrouver des aliments en décomposition. Il faut se rappeler que certains d'entre eux n'ont eu que quelques minutes il y a un mois pour évacuer la ville.
Et la première ministre de la province de l'Alberta, elle, a prévenu les gens touchés que la reconstruction prendrait du temps.
Oui, Rachel Notley croit que la ville de Fort McMurray en a pour des années à se remettre de ce sinistre. On ne sait même pas encore si certains quartiers détruits par les flammes pourront être reconstruits. Pour le moment, des résidences sont inhabitables parce qu'on a détecté la présence de métaux lourds dans le sol. L'incendie, lui, est toujours actif. 5800 km² ont été détruits, mais le feu ne menace plus aucune communauté.
Merci à tous. L'actualité francophone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et sur lesmediafrancophones.org. Et merci à vous de nous rejoindre sur France Inter. Il est 6h14.